Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le patrimoine a-t-il un avenir au Québec? La question se pose lorsqu'on voit tous ces édifices anciens, magnifiques, démolis ou abandonnés. Je pense à la Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. Et on en discute avec l'ancienne ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, dont c'est maintenant le dossier comme critique libérale. La loi qu'elle faisait adopter en ces matières il y a maintenant une dizaine d'années est-elle un échec? Le projet de loi de Nathalie Roy, actuellement en discussion au Parlement, peut-il vraiment corriger la situation? Une situation, je le rappelle, qui a été dénoncée même par la vérificatrice générale l'an dernier. Mais d'abord, une élection partielle est très possible à moyen terme dans Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal, et cela soulève une question de tradition ou de précédents électoraux ou de convention. En tout cas, on en discute.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Parlons maintenant de cette convention selon laquelle, lorsqu'un chef de parti qui est non élu tente de faire son entrée au Parlement, les autres formations lui laissent la voie libre. On en parle avec Éric Montigny, professeur à l'Université Laval en sciences politiques. Bonjour Éric.
Bonjour Antoine.
Pourquoi on parle de cette convention-là aujourd'hui, Éric?
Ben, y a deux choses. D'abord, il y a des rumeurs, puis il y a des sondages même qui sondent l'avenir de Catherine Fournier, la députée indépendante de Marie-Victorin, quant à un avenir possible de la mairie de Longueuil. Donc, des spéculations sur la capacité du chef du Parti québécois, du nouveau chef du Parti québécois, de faire son entrée à l'Assemblée nationale vont bon train, mais à la mesure où, lorsqu'il y a une occasion qui se présente, la première occasion qui se présente, ou un comté qui pourrait se libérer, ben, il y a l'habitude qu'un chef qui n'est pas élu puisse songer à s'y présenter.
Et Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit qu'il n'était pas pressé, remarque. Il a dit qu'il pourrait attendre les élections générales. Puis, il faut le dire aussi, les élections partielles sont de plus en plus rares dans notre système.
Oui.
À cause d'un ancien député de Marie-Victorin, Bernard Drainville.
Absolument.
C'est ça. Puis là, il y en a une qui
Absolument,
pourrait se profiler à l'horizon.
Oui. C'est sûr que c'est un député démissionne. Maintenant, il n'y a plus de prime de séparation. Donc, il y a moins de démissions aussi, ce qu'on observe en termes d'élections partielles. Ceci dit, moi, je dirais que Marie-Victorin, c'est aussi un château fort du Parti québécois, historiquement.
Oui.
Donc, ça fait plus d'une trentaine d'années avant que Mme Fournier quitte le caucus du Parti québécois, que la circonscription a été représentée par le Parti québécois.
Mm-hmm. Donc, ils peuvent espérer... Sa majorité était très faible, par contre, 705 voix.
Oui, effectivement. Les anciens châteaux forts du Parti québécois, ben, il y en a plusieurs qui sont tombés lors de la dernière élection.
Est-ce que c'est une convention qui est toujours appliquée?
Ben, moi, je dirais plus qu'il y a des précédents, mais ce n'est pas vraiment une convention. La tradition dans notre système, c'est que lorsqu'il y a un nouveau chef qui arrive dans un parti politique qui n'est pas député, ben, des députés qui siège dans son parti, dans un château fort, lui cède la place. Ce qu'on a vu dans le passé, par exemple, c'est Robert Bourassa qui avait perdu, on se souvient, à l'élection de 1985 dans son comté, même si son parti avait gagné qu'il devenait premier ministre, ben, il avait perdu sur la rive sud de Montréal son comté. Donc, il y a un député qui lui a fait une place, M. Leduc, dans Saint-Laurent.
Oui.
Il a fait une place pour se faire élire dans Saint-Laurent quelques mois plus tard. C'est comme ça que M. Bourassa a fait son entrée à l'Assemblée nationale du Québec après être devenu premier ministre.
Donc ça, c'est la vraie convention, oui.
Oui, même chose pour Brian Mulroney au fédéral. Il est devenu chef du Parti conservateur, puis avant d'être député dans la région de Baie-Comeau, le petit gars de Baie-Comeau, ben, il s'est fait élire en Nouvelle-Écosse, en Central Novembre. Le petit gars de Shawinigan, il s'est fait élire à Beauséjour, au Nouveau-Brunswick, avant de se faire élire en
Saint-Maurice. Jean Chrétien, mais oui.
Exactement. Et si on vient au Québec, ben, par exemple, Francis Dufour avait démissionné de Jonquière pour céder sa place à Lucien Bouchard en 1996 pour se faire élire.
C'est vrai.
C'est là la première fois où on a vu des partis adverses laisser un peu le champ libre à un candidat. Donc, ça, c'est un précédent.
Mm-hmm. L'autre précédent, c'est...
Je ne sais pas si tu te souviens, c'est Michel Chartrand qui s'est présenté pour le Parti socialiste du Québec.
Ah oui, il avait fait est-ce que c'était pas l'Union des forces progressistes?
Tout à fait, c'était l'embryon, si on veut, du Québec solidaire.
C'est ça. Puis il avait fait un bon score, là.
Oui, quand même. Donc, il n'y avait pas le... Souchard n'avait pas eu tout à fait le champ libre.
Non.
Donc, la vraie tradition... Puis on pourrait même parler de Marois en 2017 dans Charlevoix.
Voilà.
Rosa Bertrand lui avait laissé son siège. Madame Marois s'est présentée et elle a eu de l'opposition. Elle a eu de l'opposition de la DQ à l'époque. Donc.
Oui. Étais-tu t'étais dans les officines?
Oui, absolument. J'ai vécu.
Tu étais conseiller à ce moment-là. Donc, pourquoi la DQ avait décidé de ne pas respecter cette espèce de convention-là?
Parce que c'est pas jugé comme étant une convention. C'est pas jugé comme une convention. Je pense que c'est chaque élection, les partis décident si c'est opportun ou pas de présenter quelqu'un. Mais moi, je pense pas qu'on peut parler d'une convention.
Non, c'est ça.
Des précédents, dans le cas d'André Boisclair, par exemple, à Pointe-aux-Trembles, lorsqu'il est devenu chef, Mme Nicole Léger avait laissé sa place, mais pas pour lui. Parce qu'elle ne voulait juste pas travailler sous André Boisclair. Donc, elle ne se sentait pas confortable. Elle avait appuyé Mme Marois.
Oui.
Et elle avait démissionné pour pas... par fidélité, je pense, pour Mme Marois. Et André Boisclair s'est présenté ensuite dans Pointe-aux-Trembles.
Est-ce que les libéraux, à l'époque, lui avaient opposé un candidat?
Non, pas à l'époque.
OK. Donc, ça, c'est un autre précédent. Donc, il y a plusieurs précédents que le PQ pourrait invoquer, alors.
Mais c'est des précédents, mais ce n'est pas une convention. Mm. Puis par ailleurs, si on regarde les précédents, ben on peut dire qu'ils touchent à soit que ce soit le premier ministre au Québec ou chef d'opposition officielle. Pour les autres groupes d'opposition, il n'y a pas de précédent.
Ah oui, c'est ça. Ça, c'est majeur. Là. Ça pourrait vraiment justifier, François Legault, d'opposer un candidat à... une éventuelle candidature de Paul Saint-Pierre Plamondon dans Marie-Victorin.
C'est sur ça que moi je dis, il y a des précédents, mais il n'y a pas de convention. Puis il n'y a pas de précédent non plus pour des candidats qui sont d'un deuxième, troisième ou quatrième groupe d'opposition.
Puis on peut imaginer aussi que François Legault, qui souhaite d'une certaine façon remplacer le Parti québécois, ne voudra pas donner la partie trop facile au Parti québécois jamais.
Bien, en politique, c'est clair que les objectifs des partisans lorsqu'il y a une élection, ben ils sont pas juste locaux, ils sont aussi nationaux. Et la CAQ, qui sont courants, le courant bleu nationaliste, qu'il veut occuper.
Mm-hmm. Et avec la popularité qu'il a, François Legault, aujourd'hui en tout cas, on peut difficilement imaginer que tout comté francophone pourrait passer au Parti québécois.
Ben c'est sûr que c'est un défi pour le nouveau chef, ça c'est clair. Puis c'est à double tranchant.
Oui.
Par exemple, il fait le choix de se présenter dans Marie-Victorin, château fort du Parti québécois, historique, péquiste depuis plusieurs décennies, et qui perd ce château fort-là quelques mois avant une élection générale, ben c'est sûr que pour le momentum, c'est pas évident.
C'est fatal, hein? Ça pourrait être fatal.
Ça pourrait, mais en même temps...
Au Parti québécois, c'est souvent fatal pour le chef, quoi qu'il arrive.
Yeah. Mais c'est un parti qui dévore un peu ses chefs. Disons ça comme ça.
C'est ça. C'est pour ça qu'ils vont s'accrocher à ces quelques précédents qui existent, puis ils vont essayer d'appliquer ça pour forcer François Legault d'aller dans ce sens-là.
Mais pour moi, c'est clairement pas une convention. Ça, c'est clair. Parce que quand on analyse cas par cas, ce qui est la tradition, c'est qu'un député laisse, par exemple, sa place au nouveau chef dans un château fort plus solide pour pouvoir se faire élire.
Le cas de figure,
Pour moi, c'est la...
Ouais. Pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le cas de figure, ça serait plutôt que, mettons, un Harold Lebel aux prises avec des affaires judiciaires décide de démissionner. Et laisse
en même temps, ouais. En même temps, Harold Lebel n'est plus dans le caucus, là, il tient comme indépendant aussi.
Oui, mais ça provoquerait une partielle.
Ouais. Les châteaux forts sur la Côte-Nord, il y a des châteaux forts qui ont résisté. au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Donc, c'est pas, il y a Joliette. Donc, il y a beaucoup moins, c'est clair qu'il y a moins d'espace, il y a moins de comtés disponibles qu'à une autre époque au Parti québécois.
Ben, merci beaucoup, Éric Montigny, pour cette discussion.
Ben, c'est un plaisir, puis on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt.
Absolument.
La pression va pas monter.
Oh! Un jappement, c'est toujours intéressant. Ça fait tellement 2020-2021. Pandémie.
Mon chien voulait dire son petit mot.
Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Laval en sciences politiques, Éric. Merci beaucoup.
Salut bien.
Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Le patrimoine a-t-il un avenir au Québec? On se le demande tant les démolitions de bâtiments historiques particuliers se multiplient. J'en parle avec Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie et ancienne ministre de la Culture. Bonjour.
Bonjour et aujourd'hui porte-parole en matière de culture.
Bien
contente de retrouver ce dossier.
Ben oui, pour le Parti libéral. Le gouvernement a déposé le projet de loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel, projet de loi 69. Est-ce que ça règle le problème?
Bien, je le souhaite parce que j'ai donné l'assurance à la ministre que je travaillerai en toute collaboration avec elle pour faire le meilleur projet de loi possible. Cependant, il y a des interrogations là qui surgissent au fur et à mesure que l'on analyse le projet de loi. Nous sommes maintenant à l'étape de l'étude article par article et la ministre, lorsque on a suspendu les travaux il y a deux semaines, venait de déposer une liasse de 23 amendements. Et ces amendements-là ne sont pas publics encore. Elle les a déposés pour que nous puissions en prendre connaissance. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que cette loi-là, qu'elle a déposée initialement, ne contenait pas ces éléments-là. Donc, les gens qui sont venus en commission parlementaire pour discuter du projet de loi et faire leurs commentaires l'ont fait sans savoir qu'il y avait toute une série d'amendements qui s'en venaient pour venir changer le projet de loi.
Ce que j'ai lu, c'était assez négatif là, sur le projet de loi. Jusqu'à maintenant, je pense à Félix Lambert et Serge Royal qui ont dit, encore une fois, on essaie d'envoyer le problème du patrimoine dans les municipalités, municipalités qui n'ont pas d'argent. Hein? Et j'ai Pierre Laoude aussi, qui est un ancien du ministère, un ancien de la division du patrimoine dit la même chose. Donc, est-ce que c'est pas un problème d'encore une fois donner plus de pouvoir aux municipalités?
Ben, en fait, on en pèlte beaucoup dans la cour des municipalités sans les assurer d'un financement approprié. Et je pense que c'est l'inquiétude, elle est là de la part des municipalités. Et les municipalités vont devoir adopter, chaque municipalité au Québec, là, puis on en a plus de 1100, va devoir adopter un règlement sur les démolitions. Il va devoir y avoir aussi un inventaire du patrimoine bâti. Elles vont devoir également adopter des règlements pour l'entretien de ce patrimoine. Mais une fois qu'on a dit ça, ce sont de très bonnes intentions, puis on peut sur papier dire bravo, c'est formidable. Mais comment on s'y prend pour accompagner les municipalités? La ministre dit, on a mis 50 millions de dollars, il y a une formule d'appariement l'année dernière, ça a été formidable, on a accepté 96 projets. Mais 96 projets pour 1100 municipalités, c'est une formule d'appariement en plus. Donc, il y a des municipalités, de toutes petites municipalités, qui n'ont même pas les moyens d'aller vers la formule d'appariement. Pour vous donner un exemple, à Sherbrooke, ils ont eu de cette somme-là 1 400 000 pour la restauration du patrimoine dans leur centre-ville. Bravo, la municipalité met 1,4 million également, mais elle vient chercher dans le 50 millions 1,4. Donc, ça veut dire que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus d'argent et c'est là-dessus que nous c'est là-dessus qu'on demande à la ministre d'être le plus transparente possible. Je comprends qu'elle ne peut pas dévoiler ce que son collègue, le ministre Girard, va annoncer au budget, mais les sommes vont devoir être énormes, gigantesques. Elle a dit dans une entrevue, dans un autre média, qu'elle donnait... les municipalités avaient des pouvoirs, mais elle leur donne des devoirs. C'est un peu condescendant entre vous et moi de dire ça, d'envoyer ce message-là aux municipalités, mais ces devoirs-là...
Oui, mais les villes sont des émanations. Les villes sont des émanations du gouvernement du Québec, là, c'est normal. Constitutionnellement, c'est pas faux.
Oui, c'est pas faux. Mais en même temps, lorsque je suis entrée en contact avec autant la FQM que l'UMQ relativement à ces amendements-là qui ont été déposés, ils n'avaient même pas été consultés par le ministère de la Culture. Il y avait eu et la prochaine rencontre va avoir lieu, la rencontre va avoir lieu lundi prochain, alors que ça fait 3 semaines qu'ils sont déposés, qui sont dans le c'est-à-dire qu'on les a donnés pour notre consultation à nous. Et évidemment, il y avait quand même des avocats qui entoure la ministre, qui avait travaillé sur ces amendements-là. Si on veut pas faire, si on veut que les municipalités soient des partenaires dans la protection du patrimoine, il faut les accompagner. Et c'est cette assurance-là que l'on n'a pas présentement. Et les municipalités sont inquiètes de se voir imposer des devoirs, comme la ministre le dit si bien, sans accompagnement. Et cet accompagnement-là devrait être vraiment, vraiment massif.
Quand on voit ce qui se passe dans certaines villes, on a envie de leur imposer plus que des devoirs. Là. C'est vraiment tellement fâchant de voir toutes les belles maisons anciennes qu'on démolit. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de leur imposer des choses? Ou est-ce qu'il n'y aurait même pas lieu de leur retirer certains pouvoirs en patrimoine pour que ce soit l'État national du Québec qui s'en occupe?
Bien, c'est-à-dire, il faut trouver la manière de financer cet entretien-là, ces mises aux normes-là, parce que prenez un propriétaire, un couple de propriétaires qui s'est acheté une maison ancestrale, et si on dit à ce propriétaire-là qu'ils sont rendus à leur retraite, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben maintenant, vous allez devoir faire la toiture comme elle était à l'époque, vous allez devoir faire vos fenêtres comme elles étaient à l'époque, et que le couple n'a pas d'argent, on fait quoi? Il faut accompagner les propriétaires. Il va falloir qu'on trouve le moyen. On avait mis, nous, en place le Fonds du patrimoine culturel, qui, vous vous souviendrez, parce que vous avez une très bonne mémoire, se finance à même la taxe sur le tabac qui payait la dette olympique. Une fois la dette olympique payée...
Je me souvenais pas de ça. Ah oui, OK.
Oui, on a maintenu la taxe et on l'a divisée en deux. Une partie est allée pour des infrastructures sportives, l'autre partie pour la protection du patrimoine culturel. Donc, c'est le Fonds du patrimoine culturel et c'est une façon aussi d'amener un incitatif pour aider les municipalités ou aider les propriétaires dont les bâtiments avaient été cités à faire les rénovations selon les normes. Il y en a des municipalités et des propriétaires qui se sont servis du fonds, mais peut-être qu'il n'est pas suffisant. Je ne connais pas aujourd'hui les montants qui ont été versés dans le fonds l'année dernière. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Et on ne sait pas non plus, est-ce que c'est trop compliqué de faire affaire avec les fonctionnaires qui gèrent le fonds? Est-ce que manifestement,
c'est peut-être une sorte de fonds vert.
c'est un fonds qui est là. Ouais. Et qui sert à la restauration. Il a été utilisé, moi je me souviens d'annonces qu'on avait faites, de très belles annonces qu'on avait faites qui étaient relatives à ce fonds-là pour la restauration du patrimoine. Je me souviens d'une belle conférence de presse qu'on avait faite à Trois-Rivières, je m'en souviens d'une autre à La Prairie. Je me souviens de beaux projets que le Fonds du patrimoine culturel avait financé. Ouais. Mais il est libre, il y a peut-être le temps de se dire, il va falloir mettre plus d'argent dans ce fonds et faire en sorte qu'il soit plus facilement accessible.
Tous ces problèmes-là autour du patrimoine, là, est-ce que c'est pas la preuve d'une sorte d'échec de votre projet de loi ou de votre loi adoptée il y a quoi, 11 ans? Vous déposiez votre projet de loi le 18 février 2010 pour rénover la loi sur les biens culturels.
Il a été adopté à l'unanimité en 2011 et il est entré en vigueur en 2012. Il est le fruit d'un long, long processus.
Mais oui.
Un processus de tout d'abord un livre vert qui avait été initié par ma prédécesseure Lynn Beauchamp. Ensuite, moi, j'ai fait une grande tournée du Québec. J'ai fait toutes les régions du Québec, 12 régions. On a reçu 200 mémoires. Lorsque le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, les consultations qu'on a tenues ont accueilli 50 organismes et personnes intéressées sont venus témoigner en commission parlementaire pour commenter le projet de loi, et le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Était-il parfait? Probablement pas.
Mais en tout cas, il n'a pas réglé le problème, Christine Saint-Pierre. Hein? Je veux dire, on est plein de problèmes de patrimoine actuellement. Là, on a l'impression que...
On parle du patrimoine bâti. Il a réglé certains problèmes, mais il n'a peut-être pas réglé tous les problèmes. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je suis tout à fait prête à accompagner la ministre, parce qu'il n'y a rien de parfait. Je ne suis pas parfaite. La ministre n'est pas parfaite. Vous n'êtes pas parfait. Et je suis très prête à accompagner la ministre pour avoir un meilleur projet de loi.
Mais quels sont vos regrets, Christine Saint-Pierre? Avez-vous des regrets dans tout ce débat-là là, qui a eu lieu il y a 10 ans? Vous devez vous dire, à ce moment-là, on aurait dû insister sur telle chose ou insister sur telle autre.
Mais on a cru qu'on établissait un partenariat avec les municipalités. J'avais fait de nombreuses consultations. J'avais eu de nombreuses rencontres, entre autres avec M. Bernard Généreux. Et on a travaillé de concert avec les municipalités. Est-ce que les municipalités, quand elles vous ont eu, quand vous ont voulu citer des bâtiments privés, se sont fait dire par les propriétaires non, vous allez me passer sous le corps avant de faire ça, parce que là, vous donnez des responsabilités aux propriétaires. Donc, ça veut dire que la municipalité doit donner une aide aux propriétaires. Et c'est là qu'on a besoin d'une prise de conscience, bien sûr, mais on ne peut pas tout pelleter dans la cour des municipalités et dans la cour des propriétaires.
Certainement pas.
Nous avions fait à l'époque, nous avions dit, nous allons prendre en charge le patrimoine qui est classé, qui a une valeur nationale, et les municipalités pourront citer des bâtiments qui ont une valeur locale. Et c'était l'entente que nous avions avec les municipalités en créant également le fonds du patrimoine culturel.
Est-ce qu'on ne s'est pas dispersé un peu, Christine Saint-Pierre, est-ce qu'on ne s'est pas dispersé un peu dans le patrimoine immatériel? C'est parce que il y a eu plein de classements de trucs comme, je sais pas, la chasse-galerie, tout ça. Est-ce qu'on n'aurait pas dû se concentrer sur les bâtisses, dans le fond, le patrimoine matériel?
Ben, le patrimoine immatériel, écoutez, on a été salués par l'UNESCO pour avoir introduit cette notion-là dans notre loi. Et on était une loi les plus avancées au monde à l'époque. Et on n'a jamais regretté de le faire, parce qu'il y a des choses, et ça ne nécessite pas d'argent, là, de dire que de classer le principe de la ceinture fléchée ou de la course en canot. On ne vient pas vider les fonds de l'État avec ça, là. Et le patrimoine bâti a quand même des possibilités d'être. On a la possibilité d'aller chercher, je vous le répète, dans le fond du patrimoine culturel. Okay. Ce qu'il va falloir qu'on ait comme assurance, c'est qu'on ait plus d'argent, qu'on aille plus loin, et pour accompagner les municipalités, les MRC, et aussi accompagner les propriétaires. Et ça, c'est bien sûr, ça va vouloir dire d'aller chercher de l'argent quelque part. On va le chercher où, cet argent-là? Ouais. Est-ce qu'on va le chercher dans les taxes municipales? Est-ce qu'on va le chercher dans une taxe dédiée qui vient que le ministre pourrait...
Ah, moi, j'ai une idée. Mais dans le troisième lien, dans le projet de troisième lien.
C'est une responsabilité collective que nous avons.
Ouais.
Et on ne peut pas non plus dire, le propriétaire, bien, il avait juste à pas acheter sa maison patrimoniale.
Ben oui, c'est sûr.
Il n'avait pas à payer plus cher pour faire ses rénovations.
Il faut parler de la bibliothèque Saint-Sulpice, Christine Saint-Pierre, qui est évidemment qui a été construite en 1914, classée monument historique en 1988. Vous vous inquiétez pour cette bibliothèque-là?
Ben énormément, parce que moi, lorsque j'étais ministre, j'avais exercé le droit de préemption pour que le ministère de la Culture l'achète, parce que la bibliothèque appartenait à cette époque-là à l'Université du Québec à Montréal et allait être vendue dans le secteur privé. On a lancé un appel de projet. On avait réservé 10 millions de dollars pour la restauration du bâtiment. Le projet avait été accordé à un organisme de musique contemporaine qui s'appelle le Vivier. Et lorsque le Parti québécois est arrivé au pouvoir et que le ministre Nakakoto est arrivé aux commandes du ministère de la Culture, il a flushé le projet. Alors, on rebelote, on recommence à zéro.
Mais là, votre collègue Hélène David, elle a essayé de vendre dans les petites annonces en disant un terrain de 3150 mètres carrés avec bâtisse dessus construite. Ça, c'était dans la presse en 2015.
Oui, je commenterai pas cette époque-là, sauf que je peux vous dire qu'après ça, il y a eu des journalistes qui ont sorti l'histoire et que c'est resté entre les mains du ministère de la Culture. Et Hélène a travaillé très fort avec Bibliothèque et Archives nationales pour proposer un magnifique projet que la ministre Nathalie Roy a, elle aussi, en arrivant, décidé de flusher après un investissement de 5 millions de dollars de l'argent des Québécois pour monter ce projet-là, en faire une étude de faisabilité. Là, on repart à zéro. zéro.
Ben oui.
Et vous allez, aujourd'hui, il y a un communiqué qui a été publié, que nous publions, et on demande à la ministre de faire la lumière, parce qu'elle a une exemplarité de l'État. On peut bien parler du patrimoine bâti dans les municipalités, puis dire aux municipalités, puis oh, merci, faites votre travail, mais la ministre a une responsabilité. Depuis qu'elle est aux commandes, combien d'argent a été mis pour mettre aux normes le bâtiment, pour protéger le bâtiment? Est-ce que le bâtiment a encore une assurance?
Mm-hmm.
Est encore assuré? Selon les informations que j'ai eues, le bâtiment est en très, très mauvais état. La toiture est en mauvais état. Les magnifiques vitraux qui sont à l'intérieur de la bibliothèque, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, mais c'est un
vendeur. C'est extraordinaire. C'est magnifique.
Et les magnifiques vitraux ont des problèmes depuis un an. Il y a eu des infiltrations. Le plomb des vitraux est en train de se désagréger. Et là, on n'a aucune idée de l'état de santé du bâtiment. La ministre est allée le visiter il y a trois semaines avec Chantal Rouleau. J'espère qu'ils ont constaté des choses. Et on veut savoir sur quel projet elle planche et pourquoi elle ne fait pas un appel de projet.
Ben oui.
Il y a des gens qui lèvent la main pour des projets magnifiques pour la bibliothèque Saint-Sulpice. Et là, ce qui aurait été 10 millions de dollars quand j'étais ministre de la Culture, bien aujourd'hui, on est rendu à des 20-30 millions de dollars pour me remettre ce bâtiment-là aux normes et qui est le plus beau bâtiment, je pense,
oui.
de la rue Saint-Denis
oui.
à Montréal. C'est absolument magnifique.
Il faut faire quelque chose. C'est urgent. Ouais.
Puis j'ai eu la semaine dernière un contact avec un organisme qui serait prêt à... Et c'est, le projet est très sérieux.
Ils ont demandé
à rencontrer la ministre, ça n'a pas marché. Et là, la ministre dit qu'elle planche sur des choses. On sait que son chef de cabinet a demandé aussi à quelqu'un qui connaissait, as-tu un projet à nous proposer en décembre, dépose-nous ça rapidement. C'est comme si on appelle quelqu'un, dépose-nous un projet rapidement, qu'elle fasse les choses correctement.
Mais il faut que ça reste une bibliothèque. À un moment donné, il était question de faire une espèce de maison de jeunes là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas.
Non, ça, c'est impossible. On ne peut pas faire ça.
Non.
Il faut qu'il y ait une vocation culturelle à la bibliothèque Saint-Sulpice. Il faut que les gens puissent en profiter. Cette bibliothèque-là a aussi dans son sol une salle qui était à l'époque un cinéma et qui peut aussi servir de salle, de petite salle de spectacle, de concert, de projection qui pourrait être restaurée. On pourrait en faire un endroit extraordinaire pour les Québécois et les touristes qui viennent à Montréal, ouvrir les portes toutes grandes pour qu'ils puissent voir la beauté.
Mais ça prend des livres là-dedans, non, Christine Saint-Pierre? Ça prend absolument des livres.
Oui, ça prend des livres et ça prend de la documentation.
Ça peut être
de la documentation numérique. Il y a plein de choses qu'on peut faire.
On n'a pas une collection de livres anciens qu'on pourrait mettre là?
Ben, il paraît que les Sulpiciens ont une très belle collection que la ministre a classée, mais qui était en péril, là, selon les informations qui sortaient. Mais moi, je vous dis, encore là, je vais l'applaudir, la ministre, parce qu'elle va arriver avec un véritable projet sérieux. Mais il faut qu'elle nous fasse part présentement. Ça fait presque deux ans et demi qu'elle est là. Quel est l'état de situation? Elle ne peut pas toujours nous envoyer ça sur le dos des libéraux. Je comprends que souvent, on a le dos large. Là. Mais là, ça fait deux ans et demi qu'elle est là. C'est quoi?
Mais vous l'avez dit, vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas parfaite.
Non, elle non plus.
Elle non plus.
Moi, je suis prête à accompagner pour faire qu'on puisse avoir un magnifique projet à Montréal.
Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie.
Merci.
Et porte-parole libérale en matière de culture. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.